Audiolib présente L'avenir de l'eau d'Éric Orsenna de l'Académie française. Lu par Michel Rimbaud. À Claude Durand. Avant-propos. Un beau jour, l'âge venant, vous décidez d'en savoir plus sur la vie. Vous relisez la Bible, vous lisez le Coran. Vous vous aventurez dans les mythologies indiennes. Vous constatez, ébahi, que tous les commencements se ressemblent. Il était une fois l'eau. Vous questionnez les scientifiques, ils vous affirment que vous êtes d'abord fait d'eau. Alors vous vous dites qu'il est grand temps d'éclaircir ce mystère. D'autant que des angoisses vous viennent sitôt que vous interrogez l'avenir. Aura-t-elle assez d'eau, la planète? La planète malade que je vais laisser à mes enfants? Assez d'eau pour qu'ils boivent et se lavent? Assez d'eau pour faire pousser les plantes censées les nourrir? Assez d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la guerre s'ajoute celle du manque d'eau? Un écrivain a ceci de particulier, qu'il répond par un livre aux questions qu'il se pose. Tom Rich, dont je ne sais pas grand-chose sinon qu'il est australien, est l'auteur d'une phrase de grande sagesse. Elle ne m'a pas quitté durant ces 2 années d'enquête. Si vous voulez étudier l'histoire de mon pays, vous devrez porter en vous la volonté d'échouer. Sans aucun doute, je porte secrète en moi cette volonté d'échouer. Comment réussir à raconter, sans rien oublier, cet univers dans l'univers qu'est l'eau? 1. Portrait du personnage. La vraie nature de l'eau. 1. C'est un couple. J'ai rencontré Lavoisier un jour de janvier 2006, par très beau temps, très froid, très sec, 70 degrés de longitude ouest et 70 degrés 15 secondes de latitude sud. Notre bateau, la Fière Ada 2, propriétaire Isabelle Autissier, progressait lentement entre les icebergs. Notre objectif était la baie. Sur la droite, s'étirait une île baptisée Lavoisier, par nos illustres prédécesseurs d'exploration. Au fond, qui était ce Lavoisier? Les savoirs de l'équipage furent mis en commun. Maigre savoir. Outre la phrase célèbre ayant justifié son exécution, « La révolution n'a pas besoin de savants » et quelques vieux rappels sur son statut de créateur de la chimie moderne, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », nous n'en connaissions guère plus. J'ai plongé dans le carré, allumé l'ordinateur, et l'Internet aidant, j'ai découvert l'un de ces personnages dont le XVIIIe siècle a le secret. L'un de ces hommes qui font honte à tous ceux qui aujourd'hui se prétendent travailleurs. J'ai appris qu'il avait été tour à tour avocat, fermier général, conseiller d'un contrôleur général des finances, Turgot, régisseur des poudres et salpêtres, exploiteur agricole, conseiller d'un autre contrôleur général des finances, Necker, auteur d'une centaine de rapports sur l'assainissement des villes, la création d'abattoirs, la modernisation de l'agriculture, administrateur de la caisse d'escompte, co-organisateur du voyage de la Pérouse, etc., etc. Parallèlement, sa contribution à la science avait été aussi diverse que décisive. Il avait fait progresser d'innombrables chantiers de la connaissance, sans oublier son grand œuvre, la création de la chimie moderne. Son intérêt pour l'eau commence dès 1768. À peine reçu à l'Académie des sciences, celle-ci lui demande d'apprécier un projet d'aqueduc conçu par un certain ingénieur, Antoine de Parcieux, pour apporter aux Parisiens l'eau propre de la petite rivière Yvette. Paris n'est alors alimenté que par la Seine, qui tient lieu d'égout. L'aqueduc coûterait 8